L'Éden de Satan numéro 66. Les jumeaux numéro 10. La vie de la semence 5e partie. La vie de la semence de Dieu. Le matin du 4 septembre 2022. Brian Kozurek. Maintenant, il y a quelques semaines, nous avons examiné la lignée de la semence du serpent. Et ce matin, nous examinerons la lignée des fils de Dieu. Dans le sermon, cas sur la Genèse 29, 07, 53, 14, 21, paragraphe 22 SHP, de Dieu Esther sortit le logo, qui était le Fils de Dieu, puis du logo, qui était la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair et habitée parmi nous. Du logo Esther sortit l'homme. Or comme nous avons couvert la scène de la création ce matin, continuons à partir de là, dans Genèse 1, et passons maintenant à Genèse 2. Au verset 8, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme, y plaça l'homme, qu'il avait formé. 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Maintenant, arrêtons-nous ici juste un instant, et j'aimerais que vous remarquiez que Dieu plante. L'Écriture nous dit que Dieu plante, puis pousse du sol chaque arbre qui est bon à manger et agréable à voir. Je peux m'imaginer toutes les couleurs et les arômes qui s'exhalent de ce jardin et tous les beaux fruits. Mais si vous êtes attentif, vous remarquez que tous les arbres que Dieu a plantés dans le sol étaient soit bons à manger soit agréables à voir. Mais lisons la suite, car nous constatons qu'on trouve également deux autres arbres dans ce jardin, mais nous n'y savons pas comment ils ont atterri là, car on n'y dit pas si ces deux arbres ont été plantés. 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et, aussi, l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal acquis. Remarquez que l'arbre de la vie est également au milieu du jardin, mais on n'y dit pas comment il a atterri là. Et c'est la même chose avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal acquis. Il n'y figure pas parmi ceux qui ont été plantés. Passons maintenant au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. 17. Mais tu n'y mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal acquis, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais, pour l'homme, il n'y trouva point d'être semblable à lui. Maintenant, rappelez-vous, dans Genèse au chapitre 1 tout ce qu'il y avait. Dieu l'a créé par la parole et il a planté toutes les semences dans la terre. Mais toutes les formes de vie que Dieu a créées par la parole n'existaient que sous forme spirituelle à ce moment-là, car elles n'étaient que des paroles parlées. En tant que semences, elles étaient porteuses de vie. Mais maintenant, dans Genèse 2, Dieu commençait à manifester toutes ses semences en les revêtant de la poussière de la terre. Par conséquent, rappelez-vous simplement de ceci. La parole parlait Esther la semence originelle. Et avant que toute autre vie n'émise se présente sous forme de semence, nous voyons Dieu donner premièrement naissance à son Fils dans Genèse 1.3. Maintenant, j'ai promis il y a quelques semaines que nous examinerions d'où venaient ces deux arbres qui étaient dans le jardin mais que Dieu n'a pas plantés. Comme vous l'avez vu au chapitre 2, Dieu a planté tous les arbres du jardin sauf ces deux. Ces deux arbres sont différents de tous les autres arbres, car tous les autres arbres ont été plantés, mais ces deux arbres n'ont pas été plantés. Alors, d'où viennent ces deux arbres? Et que, ou plutôt, qui, dirions-nous, étaient ces deux arbres? Pour pouvoir distinguer deux choses l'une de l'autre, et ce pour n'importe quoi, nous devons avoir un moyen de les catégoriser. Puisque la loi de la reproduction dit que chaque semence doit se reproduire selon son espèce, nous avons alors un principe établi afin de procéder à notre étude. À savoir, si chaque semence porte une vie en elle, et que chaque semence n'émise peut se reproduire que selon son espèce ou sa nature, alors nous devons impérativement observer la nature de ces deux arbres, qui n'ont pas été plantés mais placés dans le jardin, et voir ce que leur nature nous révèle à leur sujet. Car Jésus nous a enseigné à les juger par leurs fruits. Il nous a dit, vous les reconnaîtrez leurs fruits. Après tout, dans n'importe quel domaine de la science, nous désignons les différences en fonction de ce que nous pouvons observer. C'est-à-dire ce qu'on appelle des données empiriques ou des preuves, des données observables. L'abstraction c'est-à-dire basée sur l'étude de preuves empiriques et la définition des preuves empiriques se définit comme provenant de ou basée sur l'observation ou l'expérience. Exemple, des données empiriques. S'appuyer uniquement sur l'expérience ou l'observation souvent sans tenir dûment compte de systèmes et de théories. Exemple, une base empirique pour la théorie. Capable d'être vérifiée ou réfutée par l'observation ou l'expérience. Exemple, les lois empiriques. Maintenant, dans certains cas, nous voulons utiliser des preuves empiriques pour savoir quel genre d'animal ou de plante est-ce un objet. Mais il y a des preuves qui vont au-delà des simples données empiriques, et qui nous font entrer dans le domaine de la foi aux révélations. Et la foi est-elle contraire à l'empirisme parce qu'elle n'est-elle pas basée sur l'expérience ou des données empiriques? La foi est-elle basée sur une seule chose, la parole de Dieu. Soit Dieu l'a dit, soit elle n'est mais l'a pas dit. Hébreux 11.1 Maintenant, la foi est-elle la substance des choses espérées, la preuve des choses non vues. Roi Jacques. Donc, la foi est-elle basée sur une substance, mais pas une substance que l'on peut voir. C'est-elle une preuve, mais elle n'est-elle pas empirique. Nous pouvons faire la différence entre un érable et un chêne simplement par des données empiriques. La forme des feuilles, la nature de l'écorce, la forme de l'arbre, sa hauteur, sa vitesse de croissance, la taille de son tronc, etc. Cette forme de science est-elle appelée la botanique, qui est-elle une branche de la biologie qui traite des plantes, de leur vie, de leur structure, de leur croissance, de leurs caractéristiques et donc de leur classification. Par conséquent, si nous voulons comprendre les différences entre ces deux arbres qui étaient dans le jardin mais qui n'y ont pas été plantés, nous devons commencer par examiner leurs caractéristiques afin de pouvoir définir leur nature. Le premier arbre que nous examinerons, c'est cet arbre de la vie. Remarquez, son nom parle de vie. C'est l'arbre de la vie. Maintenant, si nous voulons découvrir quelque chose sur cet arbre, nous devons aller à la source de la vie qui est Dieu lui-même. Et puisque Dieu est également la parole, alors si nous voulons nous informer sur cet arbre de la vie, nous devons consulter la parole de Dieu. Nous savons déjà que Dieu est la source de toute vie. Au commencement, Dieu était la grande fontaine de la vie, comme nous le voyons dans Psaume 36.9, car par de vers toi est la source de la vie. En ta lumière nous verrons la lumière. Darby. Nous constatons également que Jean a aussi reconnu cet attribut de Dieu. Jean 1.1 Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. et la parole était Dieu. 2. Elle était au commencement avec Dieu. 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dieu était seul au commencement et en lui était la vie. Et quand il a commencé à reproduire cette vie, elle est d'abord entrée dans son Fils, comme nous l'avons vu ce matin dans Genèse 1.3. Quand Dieu a parlé, le Logos est sorti de Dieu et a fait naître ou a donné naissance à son Fils premier-né. Maintenant, un fils est la semence de son Père, et par conséquent, la parole parlée est la semence originelle ou le Fils premier-né. Nous voyons donc que Dieu, la grande fontaine de la vie, a commencé à produire son grand plan pour s'accomplir lui-même, et il a commencé cet accomplissement en faisant d'abord naître un fils. Nous trouvons dans Jean 5.26, car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Maintenant, une chose que nous n'aimons, devons pas oublier, on n'a pas interdit à Adam de manger de l'arbre de vie. On lui a seulement interdit de manger de l'arbre de la connaissance. Dans le livre d'Apocalypse 2.7 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Nous voyons donc que Dieu voulait que l'homme mange de l'arbre de vie, mais avant qu'il n'ait aimé le puisse, il avait déjà mangé de l'arbre de la connaissance, et quand il a fait cela, il a dû récolter la promesse, car le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Genèse 2.16 L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. 17 Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal acquis, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il n'a jamais dit cela à propos de l'arbre de vie. Par conséquent, l'homme aurait pu manger de l'arbre de vie. Mais remarquez ce qui s'est passé après qu'il ait mangé de l'arbre interdit de la connaissance. Genèse 3.22-24 L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal acquis. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. 23 Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. 24 Sester ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins, qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Vous voyez, Dieu a dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras, donc Dieu devait l'empêcher de manger également de l'arbre de vie, car la peine devait être subie, et Dieu Néhémie peut pas mentir. Dieu Néhémie peut pas dire Néhémie fais pas ceci ou tu mourras. Et puis, comme la plupart des parents aujourd'hui, quand l'enfant désobéit, ils font machine arrière et disent, va au coin. Il a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il Néhémie peut pas changer sa parole. Par conséquent, Dieu a envoyé une épée ardente dans les mains des chérubins, pour garder et protéger le chemin de l'arbre de vie. L'homme Néhémie pouvait pas manger de l'arbre de vie dans son état déchu. Or, jusqu'à présent, nous n'avons pas vu grand-chose concernant cet arbre de vie. Nous savons qu'en cet arbre, il y a les caractéristiques essentielles de la vie et cette vie est venue de Dieu qui est à la source de la vie. Mais pourquoi est-ce il décrit comme un arbre? C'est ce qui décourage les hommes dans leur quête de la vérité. Dieu utilise des types et des ombres. Et les hommes sont alors livrés à eux-mêmes, pour déchiffrer ce qui Néhémie leur a pas été donné de connaître. Rappelez-vous dans Matthieu 13 que Jésus a dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que pour ceux qui sont à l'extérieur, cela Néhémie leur a pas été donné. C'est pourquoi, il nous parle en parabole. Par conséquent, Nous devons savoir ce que représente le symbolisme de cet arbre. Psaume 1.1-3 Heureux l'homme, qui n'est mis marche pas selon le conseil des méchants. Qui n'est mis s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui n'est mis s'assied pas en compagnie des moqueurs. Deux mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la Torah. Les instructions du Père. Et qui la médite jour et nuit. Trois et l'Esther comme un arbre planté près de courants d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage n'est mis se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Maintenant, il n'est mis fait aucun doute que les Écritures comparent métaphoriquement les hommes à des arbres. Dans le psaume 1, il nous Esther dit qu'un homme juste Esther comme un arbre planté, près de courants d'eau qui Esther le fleuve de la vie. Et nous le retrouvons également dans le livre de Jude où il fait allusion à l'homme animal. Jude 1.10, ces hommes. V. 4. Au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. 11. Malheur à eux. Car ils ont suivi la voie de Cain. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Mais ils se sont perdus par la révolte de Corée. 12. Ce sont des écueils dans vos agapes. Faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne, en fait sans fruits, deux fois morts, déracinés. Nous voyons donc que les arbres représentent les hommes en général, comme nous le voyons aussi dans Marc 8.22. Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. 23. Il prit l'aveugle par la main, et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, et lui demanda s'il voyait quelque chose. 24. Il regarda, et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. Mais qui est-ce donc cet arbre de vie? Nous trouvons notre réponse dans le livre d'Ésaïe 53.1 qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Maintenant, tous les lecteurs de la Bible savent que cela parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons donc qu'il est l'arbre de vie qui était dans le jardin. Alors qui était cet autre arbre? L'arbre de la connaissance. Eh bien, nous avons déjà vu dans le livre de Jude que ceux qui sont appelés des brutes sont aussi appelés des arbres. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. 11. Malheur à eux. Ce sont des arbres avec des fruits d'automne, sans fruits, deux fois morts, déracinés. Par conséquent, si l'Écriture parle des hommes, à la fois des justes et des injustes, métaphoriquement comme des arbres. Alors, s'il s'agit d'arbres, alors métaphoriquement, les hommes devraient descendre des arbres, car chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Maintenant, Néhémie pensait pas qu'il soit étrange que les hommes soient comparés à des arbres. Après tout, les hommes sont également comparés au blé à l'ivraie, et à l'herbe des champs, et aux fleurs des champs, etc. Mais pour cette étude, nous n'examinerons que le point de vue métaphorique des arbres, puisque nous avons affaire à deux individus dans le jardin d'Éden qui n'ont pas été plantés. Maintenant, frère Branham nous a enseigné que ces deux arbres étaient Christ et Satan. Dans l'exposé des âges de l'Église, il a dit, nous commençons par le fait qu'il y avait deux arbres au milieu du jardin. L'arbre de vie était Jésus. L'autre arbre était certainement Satan à cause de ce qui Esther sortit du fruit de cet arbre. Maintenant, nous savons que ces deux arbres avaient une relation avec l'homme, sinon ils n'auraient jamais été placés là. Une autre chose que nous devons comprendre, Esther, que si l'un des arbres est à l'arbre de vie, alors l'autre arbre, appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à qui était de ce fait l'arbre de la mort. Car le jour où vous en mangez, ce jour-là vous mourrez, Esther, ce que Dieu a dit. Nous entendons frère Branham nous dire la même chose dans le message, la piscine de Bethesda, 11 août 50, paragraphe 10 HP, dans le jardin d'Éden. Il y avait deux arbres. L'un d'eux était l'arbre de vie. Quand l'homme mangeait de cet arbre, il vivait pour toujours. Et l'autre était l'arbre de la connaissance, qui était l'arbre de la mort, qui était l'arbre de la maladie. La foi transmise au saint une fois pour toutes, 29 novembre 53 E 42. Maintenant, l'arbre de vie, je crois, est un Jésus-Christ. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Il est l'arbre de vie. L'exposé des sept âges de l'Église, CPT 3, l'âge de l'Église d'Éphèse 97-4. Mais qu'est-ce que l'arbre de vie? Eh bien, tout d'abord, nous devrions savoir ce que l'arbre, en soi, représente. Dans Nombre 24.6. Alors que Balaam décrivait Israël, il a dit qu'ils étaient semblables à des arbres d'aloès, arbres odorants, que le Seigneur a plantés. Les arbres dans les Écritures font allusion à des personnes, telles que dans Psaume 1. Ainsi, l'arbre de vie doit être la personne de vie, et c'est Jésus. Or, dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres au milieu de celui-ci. L'un était l'arbre de vie, l'autre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal acquis. L'homme devait vivre par l'arbre de vie, mais l'ennemi ne devait pas toucher à l'autre arbre sinon il mourrait. Mais l'homme a mangé de l'autre arbre, et quand il l'a fait, la mort est rentrée en lui par son péché, et il s'est séparé de Dieu. Or, cet arbre là-bas en Éden, cet arbre qui était la source de la vie, c'était Jésus. Dans Jean, chapitre 6 à 8, Jésus se présente comme la source de la vie éternelle. Il s'est lui-même appelé le pain du ciel. Il a parlé de s'offrir et que si un homme mangeait de lui, il ne mourrait jamais. Il a proclamé qu'il connaissait Abraham, et qu'avant Abraham, il était. Il a prophétisé qu'il leur donnerait lui-même des eaux vives, que si l'homme en buvait, il n'aurait plus jamais soif, et vivrait éternellement. Il s'est représenté comme le grand Je suis. Il est le pain de vie, le puits de vie, l'éternel, l'arbre de vie. Il était jadis en Éden au milieu du jardin, de même qu'il sera au milieu du paradis de Dieu. Certains ont l'idée que les deux arbres du jardin n'étaient que deux arbres de plus comme le reste de ce que Dieu y avait placé. Mais les étudiants prudents savent que ce n'est pas le cas. Quand Jean-Baptiste criait que la cognée était mise à la racine de tous les arbres, il n'y parlait pas simplement d'arbres naturels, mais de principes spirituels. Maintenant, dans Jean 5.11, il est dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Jésus a dit dans Jean 5.40, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Ainsi, le témoignage, la parole de Dieu, affirme sans équivoque que la vie éternelle, est dans le Fils. Elle n'est nulle part ailleurs. Et Jean 5.12, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Maintenant, puisque le témoignage Néhémie peut pas changer, on Néhémie peut y retrancher ni ajouter, alors le témoignage Esther, que la vie Esther dans le Fils. Puisqu'il en Esther ainsi, l'arbre dans le jardin doit être Jésus. Très bien. Si l'arbre de vie Esther une personne, alors l'arbre de la connaissance du bien et du mal acquis Esther aussi une personne. Il n'est mis peut en être autrement. Ainsi, le juste et le méchant se tenaient côte à côte au milieu du jardin d'Éden. Ézéchiel 28, 12 b. Tu auras ainsi dit le Seigneur Dieu. Tu scellais la somme. Rajak, le mot hébreu pour somme. Sester token, le signe. En anglais, note du trad. Et le verbe sceller, sester remplir. Donc littéralement nous pouvons le lire comme si tu remplissais le token. Qui ester le modèle. Tu remplissais le modèle. Tu étais plein de sagesse, la plénitude de la sagesse. Et parfait en beauté. 13. Tu as été en Éden, le jardin de Dieu. Toutes les pierres précieuses te couvraient. La sardoine, la topaze et le diamant, le chrysolite, l'onyx et le jaspe, le saphir, l'escarboucle et l'émeraude, et l'or. Le riche travail de tes tambourins et de tes flûtes était en toi. Au jour où tu fus créé, ils étaient préparés. 14. Tu étais un chérubin oint, qui couvrait, et je t'avais établi, tel. Tu étais dans la sainte montagne de Dieu. Tu marchais parmi les pierres de feu. 15. Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité s'estère trouvée en toi. Darbi, le mot iniquité siester, le mot hébreu evel, et il parle d'une sagesse injuste et d'avoir une fausse parole à la bouche. Et rappelez-vous, l'homme ester comme les pensées de son cœur, âme, et s'ester de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, littéralement, avant de pouvoir dire le malaki, il devait penser le malaki. Et vous êtes la somme de vos pensées, donc il était mauvais. Sinon il n'aurait pas pu penser au malaki. 16. Par l'abondance de ton trafic, ton intérieur a été rempli de violence, et tu as péché, et je t'ai précipité de la montagne de Dieu comme une chose profane ou polluée, et je t'ai détruit du milieu des pierres de feu, aux chérubins qui couvraient. 17. Ton cœur s'estère élevé pour ta beauté, tu as corrompu, perverti, ta sagesse à cause de ta splendeur, je t'ai jeté à terre, je t'ai mis devant les rois, afin qu'il te voie. 18. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton trafic, tu as profané tes sanctuaires, et j'ai fait sortir un feu du milieu de toi, il t'a dévoré, et je t'ai réduit en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te voient. 19. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es devenu une terreur, et tu n'es mis sera plus, à jamais. Darbi, maintenant, comparez cela avec ce que Jésus nous dit dans Matthieu 5.45 afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, ce que nous avons vu frère Vel expliquer dans son sermon Les Deux Esprits, Marc 16, que nous avons cité lors de la séance de questions et réponses des pasteurs, c'est-à-dire que, dans ce sermon, frère Vel essayait de nous montrer comment ces deux différentes formes de vie pouvaient être ointes par la même pluie ou l'onction de Dieu, et cependant, produisent, d'après la même onction, deux manifestations très différentes. Mais si vous observez simplement la nature, c'est-à-dire alors très simple. Sur le blé, l'onction ou la pluie produira des grains, semences, de blé, tandis que la même onction ou pluie sur l'ivraie peut produire que de l'ivraie, parce que chaque semence doit se reproduire selon sa nature. Donc, l'onction qui tombe sur la semence néhémie fait aucune différence. L'onction fera en sorte que cette semence manifeste ce qu'elle estère. Et la lumière a le même effet également. Paul a dit dans Éphésiens 5.13, « Tout ce qui ester manifesté ester à lumière. Par conséquent, il faut de la lumière pour amener toutes les semences à manifester ce qu'elles sont vraiment. » Ainsi, Lorsque la semence vient à la lumière, et que la pluie tombe ou à la semence, celle-ci doit extérioriser toute la nature qu'elle a en elle. Sa néémie peut pas échouer, parce que c'était la loi de Dieu. L'exposé des sept âges de l'Église, l'âge de l'Église d'Éphèse chapitre 3, 92-3 maintenant. Pour comprendre le vrai sens de ce que nous allons aborder, je dois vous avertir de toujours garder à l'esprit que la religion, les questions spirituelles, si vous voulez, se composent de deux parties, qui s'entremêlent mais qui sont aussi opposées que le jour et la nuit. La religion et le monde spirituel sont faits de ces deux arbres qui ont leurs racines en Éden. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal à qui étaient tous les deux au milieu du jardin, et sans aucun doute leurs branches même s'entremêlaient. Ainsi, dans l'église d'Éphèse, il y a ce même paradoxe. L'église Esther formait du bien et du mal à qui. Les deux vignes forment l'église. Elles sont comme le blé et l'ivraie, poussant côte à côte. Mais l'une Esther la vraie. L'autre Esther la fausse. Maintenant, Dieu parlera à chacune d'elles et il parlera de chacune d'elles. Il les appellera l'Église. Et seuls les élus sauront vraiment qu'elle est Esther le véritable esprit. Seuls les élus Néhémie seront pas séduits. Matthieu 24.24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, jadis, dans l'Église primitive, une très courte période après la Pentecôte, la fausse vigne s'était entrelacée autour de la vraie vigne et nous découvrons les œuvres des Nicolaïtes. Et cet esprit se retrouvera à combattre la vraie vigne jusqu'à ce qu'elle soit détruite par Dieu. Maintenant, l'avez-vous compris? L'exposé des sept âges de l'Église, chapitre 2 résumé des âges 366-2 de nos études, nous avons déjà appris qu'une grande partie de l'Apocalypse Esther totalement mal acquis comprise, parce que nous Néhémie savions pas auparavant que l'Église dont il Esther question et à laquelle il Esther parlait dans ce livre Néhémie fait pas référence à la pure Ecclesia, aux élus, au corps de Christ, à l'épouse. Mais il fait allusion à tout le corps des personnes qui sont appelées chrétiens, qu'ils le soient des véritables chrétiens ou simplement des chrétiens de nom. De même que tout Israël n'est-ce pas Israël, tous les chrétiens Néhémie sont pas chrétiens. Ainsi, nous avons appris que l'église Esther composée de deux vignes, la vraie et la fausse. Les deux vignes sont motivées par deux sortes d'esprits. L'une a le Saint-Esprit, tandis que l'autre est dotée de l'esprit de l'Antéchrist. Les deux prétendent connaître Dieu et être connus de Dieu. Les deux prétendent parler au nom de Dieu. Les deux croient en certaines vérités très fondamentales et diffèrent sur d'autres. Mais puisque les deux portent le nom du Seigneur, étant appelés chrétiens de Christ, et par un tel port de nom revendique évidemment une relation avec lui, Dieu appelle cela le mariage, alors, Dieu les considère tous les deux responsables envers lui et parle donc à chacun. L'exposé des sept âges de l'Église, chapitre 9 L'âge de l'Église de Laodicée 359-1 Maintenant, nous pouvons voir pourquoi il y avait deux vignes, une vraie et une fausse. Maintenant, nous pouvons voir pourquoi Abraham avait deux fils. L'un selon la chair, il persécuta Isaac et l'autre selon la promesse. Maintenant, nous pouvons voir comment, de même parents, deux garçons sont nés des jumeaux. L'un connaissait et aimait les choses de Dieu, et l'autre connaissait une grande partie de la même vérité, mais il n'était pas du même esprit, et il a donc persécuté l'enfant qui était élu. Dieu n'a pas réprouvé pour le plaisir de réprouver. Il a réprouvé pour le bien des élus. Les élus Néhémie peuvent pas persécuter les élus. Les élus Néhémie peuvent pas nuire aux élus. Ce sont les réprouvés qui persécutent et détruisent les élus. Oh! Ces réprouvés sont religieux. Ils sont intelligents. Ils sont de la lignée Cain, la semence du serpent. Ils construisent leur tour de Babel. Ils construisent leur ville. Ils construisent leurs empires. Et tout en invoquant Dieu. Ils haïssent la vraie semence. Et ils feront tout ce qu'ils peuvent, même au nom du Seigneur, pour détruire les élus de Dieu. Mais ils sont nécessaires. Qu'est-ce que la balle, pour le blé? Pas de balle, pas de blé. Mais à la fin, qu'arrive-t-il à la balle? Et l'ester brûlée dans un feu, qui n'émit s'éteint pas. Et le blé? Où est-il? Il est ramassé dans son grenier. Il est là où lui se trouve. L'exposé des sept âges de l'Église, chapitre 5. L'âge de l'Église de Pergame 175-4. Mais qu'avons-nous de nos jours? Des multitudes sont des faiseurs de signes au point où nous avons une génération de chercheurs de signes, qui savent peu sinon rien de la parole. Ou d'un véritable mouvement de l'Esprit de Dieu. S'ils voient du sang, de l'huile et du feu, ils sont heureux. Peu importe ce que dit la parole. Ils soutiendront n'importe quel signe, même non scripturaire. Mais Dieu nous a mis en garde à ce sujet. Il a dit dans Matthieu 24, que dans les derniers jours, les deux esprits seraient si proches l'un de l'autre que seuls les élus pourraient les discerner, car eux seuls n'émis seront pas séduits. La vraie vigne et la fausse vigne 7 juin 55-30. Remarquez ces deux esprits, en partant de là. Observez comment il a dominé le monde. Les voilà dans la Genèse. Observez tout ce que vous voulez. Observez l'ordre du monde. Observez tout. Alors que tout commence dans la Genèse, cela monte par un processus, et maintenant, cela finit de croître ici, et éclore dans la semence pour produire la même chose que cela était dans la Genèse. Voici la fausse vigne. Voici la vraie vigne. Et ils poussent tous les deux côte à côte. Vous êtes-vous rendu compte que Judas Iscariote était le trésorier de l'Église, de la même tribu que le Seigneur Jésus, qu'il était un grand homme, mes frères, parmi les autres, assis sur le même banc, chantant les mêmes cantiques, adorant le même Dieu, prêchant le même évangile, et que c'était Judas? Vous rendez-vous compte que le même esprit se meut maintenant même dans l'Église? Mais là où Judas a montré ses couleurs, c'était à la Pentecôte, juste avant la Pentecôte, avant qu'il n'éminesse réellement de nouveau. Les gens n'y croient pas. Ce soir, beaucoup de gens n'y croient pas en l'existence d'une chose telle que l'expérience de la nouvelle naissance. Ils disent, tout est dans votre esprit. Non, c'est dans votre cœur, frère. C'est vrai. La révélation de Jésus-Christ 4 décembre 60 matin 5 maintenant. Nous sommes désolés que notre église Néhémie soit pas plus grande. Nous espérons un jour en avoir une plus grande. Et ces quatre derniers jours, en particulier, en étudiant pour ce sermon, la partie historique du livre de l'Apocalypse, j'ai découvert des choses que je n'aurais jamais pensé qu'elles se soient réellement produites. Et cela m'a même donné le sentiment qu'après ces sept âges de l'Église, quand j'en aurais fini avec cela, j'aimerais avoir une autre série de ce genre afin de présenter ensemble la vraie Église et la fausse Église à l'aide de l'histoire et des Écritures. Comme, une fois, j'ai essayé, dans un sermon, de présenter la vraie vigne et la fausse vigne dont parle la Bible. L'âge de l'Église d'Éphèse 5 décembre 6054. Tu as pourtant ceci, Sester, que tu as les œuvres des Nicolaïtes, œuvre que je hais aussi. La vraie vigne haïssait les œuvres formalistes des Nicolaïtes, Dieu aussi. Ce qui était des œuvres dans l'Église d'Éphèse, dans l'Église des Éphésiens, est devenu une doctrine dans l'Église de Pergame. À Éphèse, la première Église, c'était des œuvres. Dans l'église suivante, Sester est devenu une doctrine. L'entendez-vous? Le comprenez-vous maintenant? C'était une œuvre à Éphèse. Et remarquez, ici à Pergame, Sester est devenu une doctrine. Cela venait de commencer ici sous forme d'un petit bébé. Maintenant, dans un instant, nous allons découvrir ce que c'était. Voici les loups dont parlait Paul, les œuvres des Nicolaïtes. Les choses n'étaient pas ainsi au commencement 20 janvier 61 E16 maintenant. Vous les agriculteurs, vous du Texas, de la Louisiane, et ce que vous pouvez être ici, tous ceux qui ont du bon sens, qui ont déjà vu pousser un cep, vous savez que le cep n'y porte pas les fruits. Ce sont les sarments qui portent les fruits, mais le sarment tire sa vie du cep. Jésus est la ressource de notre vie. Oui monsieur. Maintenant, nous remarquerons alors que si Jésus est la ressource de notre vie, c'est qu'il est le vrai cep. La vie même qui est dans le cep se trouve dans le sarment. Et si ce cep fait pousser un premier sarment, ce sarment produira une grappe de raisin. Si jamais il fait pousser un autre sarment, ce sera une grappe de raisin. S'il fera pousser un autre sarment, ça sera une grappe de raisin. Et ça sera le même genre de sarment jusqu'à la fin du cep. Oh, Dieu. Amen. Chaque fois que ce cep fera pousser un sarment, il sera comme le premier sarment. Pourquoi? Parce que la vie qui est dans le cep fera pousser le même type de sarment. Si le premier cep a produit des raisins, le suivant Néhémie produira pas de citrouille. Le prochain Néhémie portera pas d'agrumes. Et puis, après un certain temps, ça continue ainsi, le cep Néhémie le fera pas. Si le vrai cep fait pousser un sarment, si Jésus estère le sarment au départ, ou plutôt, le cep. Et le premier sarment qui a vu le jour, ils ont écrit un livre des actes après cela. N'est-ce pas? L'église pentecôtiste, la vraie église pentecôtiste. Et elle a écrit un livre des actes, avec des miracles et des prodiges qui ont accompagné les croyants. Si ce vrai cep fait pousser un autre vrai sarment, ils écriront un livre des actes derrière eux. Oui monsieur. E10 est ici, en Arizona. Il n'y a pas si longtemps, je regardais un arbre dans le potager d'un homme, un agrume. Il y avait 9 sortes différentes de fruits sur un seul arbre. C'était. Chacun d'eux était un fruit différent. C'était un oranger au départ, mais il y avait des grenades, il y avait des citrons, il y avait du pamplemousse, toutes sortes d'agrumes. Pourquoi? Ils y ont été greffés. Ils vivaient de la vie de cet arbre, mais Néhémie pouvait rien produire d'autre que ce qu'ils étaient. Néhémie pouvait pas produire d'orange, car Chester s'est greffé. Mais chaque fois que cet arbre faisait pousser de lui-même un vrai sarment, c'était un oranger, il portait des oranges. C'est comme ça aujourd'hui. Nous avons greffé des ceps méthodistes, baptistes et presbytériens sur le vrai cep, qui vivait de sa force. Mais Néhémie peuvent produire que des credos et des confessions. Mais si jamais ce cep fait pousser un autre sarment, elle sera interconfessionnelle, alimentée par le Saint-Esprit, exactement comme ça l'était le jour de la Pentecôte. De retour au commencement. Amen. Je ferai mieux de m'arrêter. Amen. Ainsi, vous pouvez voir que comme chaque réveil produit des jumeaux, il nous a dit que ce réveil a produit des jumeaux, alors il doit y avoir des jumeaux dans ce message. Il suffit d'observer les doctrines qu'ils enseignent comme doctrine de leur église, et vous pourrez savoir les branches qui ont été greffées dans ce message. Ce n'est pas trop difficile à faire. Vous arriverez à dire tel père tel fils. Observez la façon dont il prêche, et ce qu'il prêche, voilà les fruits. Et Jésus a dit, vous les reconnaîtrez leurs fruits. Et vous arriverez à dire s'ils étaient baptistes ou pentecôtistes et de quelle forme de pentecôtisme ils étaient. Les oins du temps de la fin 25 juillet 65 matin 52 ces arbres la vraie vigne et la fausse vigne. Vous m'avez entendu prêcher là-dessus depuis des années. Comment elles ont poussé ensemble? Je les ai montrés dans des individus et j'ai démontré que, depuis Caïn et Abel, les deux vignes qui se sont rencontrées à un autel, tous les deux étaient religieux, tous les deux étaient oints, tous les deux désiraient la vie et adoraient le même Dieu, et l'un a été rejeté et l'autre accepté. Et si celui qui avait été accepté a pu agir différemment de son frère, c'est seulement parce que cela lui a été révélé. Car la Bible dit, par la foi, Hébreux chapitre 11, par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est ainsi que Dieu rendit témoignage qu'il était juste. Jésus a dit que c'était la révélation spirituelle de qui il était, qui dit en que je suis, moi, le Fils de l'homme. Il a dit, Pierre a dit, tu es aïe le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es aïe heureux, Simon fils de Jonas. Ce n'est mis sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mon Père qui est dans les cieux te l'a révélé. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quoi? La vraie révélation de la parole. Voilà encore la vraie vigne. Abel, par la foi. Les oins du temps de la fin 25 juillet 65 matin 57 la vraie vigne et la fausse vigne avaient toutes les deux la même onction. L'Oester tombait sur les deux. Ce n'est pas étonnant qu'il nous ait averti que ça séduira même les élus, si c'était possible. Remarquez. Elles ont la même apparence. Elles ont la même onction. Mais remarquez. C'est à leurs fruits. Comment le savez-vous? Comment savez-vous que ce n'est pas de l'orange? Parce qu'elle produit du pamplemousse. Ce cep va bien. Il vit dans l'arbre. Mais il porte du pamplemousse. Ce n'est pas comme le premier. Et si une église dit qu'il croit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et renaît sa puissance, renie ses œuvres, renie sa parole. Si l'Église qui croit en Jésus-Christ fera les œuvres de Jésus-Christ, elle aura la vie de Jésus-Christ. Et, si ce n'est pas le cas, la vie aura beau se déverser en elle, si elle n'est pas prédestinée, depuis les racines, elle produira du pamplemousse à chaque fois ou quelque chose d'autre. Mais s'il s'agit de la vie prédestinée, dans les racines, elle produira Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si c'est la parole qui monte à travers la racine, qu'il est la racine, le commencement du temps. Le sceau de l'Antéchrist 11 mars 55-53 Alors, je me suis excusé auprès de ce ministre. Et s'il est ici ce soir, je m'excuse encore. Et au lieu que cela rassemble les gens, cela a commencé des sectes. Tout le monde doit sentir le démon. Tout le monde doit piétiner le démon. Tout le monde doit faire quelque chose. Oh mon frère, sortez de cela. Revenez à la parole de votre Dieu. Revenez à l'évangile. Revenez à la prédication de l'évangile à l'ancienne. Le Saint-Esprit de Dieu qui parcourt toute la terre, parmi les gens. C'est ce dont nous avons besoin ce soir. C'est ce qu'il nous faut avoir ce soir. Écoutez-moi. Si vous croyez que je suis le serviteur de Dieu, écoutez ma voix ce soir. Pas parce que c'est à moi, mais parce que je vous le dis à partir de la parole de Dieu, mes amis. Vous vous basez sur quelque chose qui n'a pas de fondement. Mais vous avez faim et vous avez besoin de Dieu. S'il vous plaît, revenez à Dieu. Revenez au Saint-Esprit et priez pour que Dieu vous donne l'amour qui brisera tous les préjugés de votre vie et vous rendra humble et vous remodèlera et vous fera prendre un nouveau départ. Alors, vous n'aurez aucune de ces choses de la fausse vigne qui essaie d'imiter et de faire ceci. Les gens, oh, c'est un dommage. Amen. Prions. C'est Grace Fellowship Tabernacle, septembre 2022. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.